Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
radio-imo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.
Chers amis, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Et oui, vous avez eu une fin de mois un peu difficile avec tous les événements qui ont eu lieu. Un congrès en couleur et un congrès qui a cartonné. Un véritable triomphe pour la Fédération qui a su mettre en relief, effectivement, cette passion logement pour une vraie politique au cœur du débat public. Je vous propose que cette tribune de décembre, on la fasse et on la mette sous l'angle, finalement, d'une politique active, offensive, parce que sans volonté politique, il n'y aura pas de débat autour du logement, qui est, je le rappelle, le premier besoin des Français, le premier poste de dépense des Français, pour en parler, bien sûr, comme c'est l'usage, la tradition, dans cette tribune. Jean-Marc Torollion, le président de la FNAIM, est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Comment ça va ?
Soulagé qu'un congrès soit bien passé, et donc c'est toujours un moment important pour nous. Et puis, le congrès est passé, place à l'action.
Alors, c'est un carton plein, on en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, ce que je propose, Jean-Marc, on en a parlé hors antenne, c'est d'avoir un focus très offensif. Alors vous avez cette particularité, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous êtes l'un des rares présidents de la FNAIM à avoir une compétence à la fois politique et technique très affûtée. D'ailleurs, à tel point que les politiques, lorsqu'ils vous rencontrent, ils travaillent bien leurs copies, hein, parce qu'il n'y a rien qui vous échappe. Je le sais, j'y ai déjà assisté. Et, alors, tout ça pour ceux qui pourraient penser le contraire, j'ai assisté aussi à des réunions assez intéressantes. Alors l'avantage aussi que vous avez, Jean-Marc, c'est que vous avez une vision du logement. Vous allez rencontrer tous les candidats, vous avez déjà d'ailleurs programmé pas mal de rencontres, d'ailleurs, et vous passez beaucoup de temps à travailler avec l'exécutif, des fois bien, des fois peut-être moins bien, en tout cas, toujours offensif. Concrètement, quel est le programme de la FNAIM en vue d'une ambition pour le logement pour 2022-2027 ?
Le programme de la FNAIM, il repose sur le constat que la politique du logement en France, c'est quatre piliers, je le rappelle. C'est le logement social, c'est un parc privé locatif puissant, c'est l'accession et l'aide personnelle. Moi, je m'intéresse dans un premier temps aux deux piliers qui sont du parc privé, c'est-à-dire l'accession et le parc privé locatif. On va être clair, c'est 30 millions de logements, rien que ça. Et là, qu'est-ce qu'on a en face comme ambition?
Le parc privé, c'est 30 millions de logements.
Eh oui, parce que le parc social, c'est 5 500 000 logements.
C'est 30 millions de logements.
Donc c'est 30 millions.
Et il faut un parc locatif privé, quoi.
Et le parc privé locatif, c'est 7 millions 3. Hein, dans les 30 millions, 7 millions 3. Et donc, dans lequel se situe, je le rappelle, l'essentiel de la mobilité résidentielle aujourd'hui et l'essentiel d'ailleurs du parcours résidentiel. La France a fait le choix de l'accession et d'un parc privé locatif. Et aujourd'hui, je considère que la politique qui a été menée, notamment concernant la rénovation énergétique, va porter atteinte gravement à ces deux piliers fondamentaux. Le logement social est concerné, mais c'est pas mon sujet. Et donc, face à cela, qu'est-ce qu'on fait ? Outre le fait qu'on est quand même face à une politique également qui prône le zéro artificialisation nette d'ici 2050 et avec une énorme contradiction entre produire plus et consommer moins d'espace. En tout cas, une énorme contradiction apparente. Face à cela, nous, il faut qu'on fasse des propositions, acteurs de terrain et j'allais dire également ayant une vision sur tout le spectre de la copropriété, 500 000 copropriétés, 10 millions de logements, le spectre du parc locatif privé et le spectre naturellement de l'équilibre des territoires au travers des mutations qui sont en train de se faire et de la transaction, avec une dynamique de transaction assez exceptionnelle. Et nos propositions, Sylvain, elles ne se résument pas, comme c'est souvent facile de le faire, à des questions fiscales. Elles se résument aussi à vraiment des notions de bon sens. Alors, je peux en égrener. On a quatre piliers dans nos propositions. On a réconcilié justement la politique du logement avec le zéro artificialisation nette. On a construire une politique de la rénovation énergétique compatible avec les moyens des Français. On a, faut-il demain avoir une police du logement qui s'appuie sur des auxiliaires de cette police que sont les syndics et les administrateurs de biens. Et on a aussi des propositions intéressantes pour l'accession. Et c'est dans ces quatre thèmes-là que l'on peut, nous, décliner un certain nombre de thèmes originaux. Alors, je ne vais pas faire un catalogue, mais si vous me le permettez, à moins que vous vouliez m'interrompre, mais je peux illustrer. réconcilier les Français, les réconcilier politique de l'offre et zéro artificialisation nette. Moi, je propose que dans tous les PLUI dorénavant, il y ait des zones de densité minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des maires qui ne sont plus des maires bâtisseurs. On a quand même des grandes métropoles qui annoncent qu'elles ne veulent plus construire. Ce n'est pas tenable. Ou alors, ces droits à construire, il faut les transférer ailleurs.
Est-ce qu'elles n'ont pas dit plus tôt, pardonnez-moi, mais on ne veut plus d'étalement urbain, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais si on ne veut plus d'étalement urbain, il va quand même falloir densifier. D'où,
alors, oui,
d'où,
voilà.
D'où ma proposition de dire, il y a des zones dans lesquelles la densité minimum doit être imposée et auxquelles on ne pourra pas déroger. Parce que quand vous discutez en off avec tous les promoteurs, ils vous expliquent tous que les maires, par rapport à des droits à construire qu'ils ont eux-mêmes accordés dans leur PLUI, en réalité, les rognent systématiquement.
Absolument.
Et donc, finalement, on gaspille du droit à construire. Et d'ailleurs, moi, je pense que plutôt que le vrai problème, c'est pas les terrains à bâtir, c'est les droits à construire. Et de ce point de vue-là, il faut inverser la donne. C'est une des propositions que l'on fait. Mais on a également une autre proposition, c'est d'imposer dans toutes les villes de France d'une certaine dimension une cartographie des immeubles que l'on peut surélever. Il y en a 11 000 à Paris. Pourquoi ? Parce que quand on veut, et c'est en lien avec la rénovation énergétique, quand on veut densifier, on peut aussi surélever.
Mais oui.
Et on a des promoteurs qui ont un vrai savoir-faire dans la surélévation, qui d'ailleurs aurait comme contrepartie la rénovation énergétique de l'immeuble sur lequel ils ont un droit de surélévation.
Mais ça fait un moment que la surélévation est autorisée de façon structurelle, et pourtant ça ne marche pas.
Pourquoi,
parce que Jean-Marc Torollion ?
Ça ne marche pas parce
qu'il n'y a pas un niveau d'acceptabilité des personnes.
Il y a d'abord, je crois que quand on est copropriétaire et qu'on sait que son immeuble, par principe, bénéficie d'un droit de surélévation, ça permet déjà d'intégrer dans le temps le fait qu'effectivement on peut bâtir un projet et que, par principe, la commune va l'accepter. Et donc, après, je suis persuadé qu'on va développer un savoir-faire avec un certain nombre de promoteurs qui, clé en main, livreront surélévation et rénovation énergétique et embellissement de l'immeuble.
Ah, c'est une super
voilà.
idée, ça.
Donc,
ça, c'est une top idée.
Alors, voilà l'idée que nous avons. Dans le neuf, notamment, moi, j'ai une idée, c'est que pour le vivre ensemble, il faut rétablir ou en tout cas réinciter à avoir des gardiens-concierges dans nos quartiers. Et l'immeuble, l'appartement qui logera les gardiens-concierges sera compté comme un logement social. Et là, on a le vivre ensemble et la sécurité. Et puis, je crois également qu'il faut une vraie politique fiscale neutre pour l'investissement locatif, c'est-à-dire que j'achète de l'ancien ou que j'achète du neuf, en réalité je bénéficie d'un statut et que ce statut est plus ou moins intéressant en fonction de mon engagement social et que cet engagement social soit strictement géré par les professionnels. Voilà pour l'offre. Même si on a encore beaucoup à dire sur l'équilibre des territoires et notamment la généralisation du Don Normandie dans l'ancien.
Permettez-moi une précision si vous voulez bien. Quand vous parlez de densification et de surélévation, tout le monde vous suit, sans équivoque. Et on peut même dire que c'est une excellente solution. Et d'ailleurs, l'idée de joindre le savoir-faire en surélévation de la rénovation énergétique, c'est une super idée. Le public, Jean-Marc Torollion, vous qui êtes un expert en copropriété, qui avait géré des copropriétés, est-ce qu'ils accepteront de le faire ?
Ça dépend
quand vous êtes, quand vous êtes le dernier, quand vous êtes sur le rooftop, si je peux me permettre, et qu'on vous dit qu'on va construire 3 étages de plus et que du coup, vous n'êtes plus le dernier étage concerné, donc vous n'avez plus cette liberté, si je peux m'exprimer ainsi, et que les expériences qui ont été faites sont plutôt bonnes, d'ailleurs, pour certains immeubles qui ont fonctionné, mais il faut une majorité de la copropriété qui accepte de le faire. Donc il y a une volonté politique, il y a un cadre juridique qui s'y prête, sauf que le public, il est frileux, quoi.
Le public, il faut aussi le convaincre, et c'est une affaire de pédagogie, mais finalement, vous habitez un dernier étage d'un immeuble des années 60 classé G, qui n'a pas d'ascenseur, et qui fait 5 étages, à l'époque c'était comme ça, chauffé individuellement au gaz, et on vous propose de bâtir 4 niveaux supplémentaires, en vous portant votre immeuble en B, en intégrant un ascenseur, en faisant en sorte que ce qui peut-être vous coûterait 60 000 euros, va peut-être finalement vous coûter 5 000 euros.
C'est génial.
Ça se réfléchit quand même.
Ah mais clairement.
Hein ?
Pourquoi ça fonctionne pas alors qu'on s'est dit comme ça ?
Parce que je pense comme toute chose, que la chaîne de compétences, elle n'est pas en place, que les syndics doivent bénéficier de cette chaîne de compétences et eux-mêmes se former, et que ça participe aussi d'une politique locale volontariste qui, parce qu'elle a dressé la cartographie des immeubles pour lesquels elle est prête à accorder des droits de surélévation, eh bien, derrière, on peut y mettre la vraie politique d'accompagnement et d'ingénierie. Voilà, donc ça se travaille.
C'est une très très bonne idée, parce qu'on peut ajouter aussi la valeur que va acquérir le bien grâce à la surélévation des travaux ad hoc qui vont se
bien
faire,
sûr.
Parce que c'est une rénovation non seulement énergétique, mais c'est aussi tout simplement une rénovation de l'immeuble en soi.
Bien sûr.
Et donc c'est une vraie valeur. C'est vrai que quand vous l'expliquez comme ça, moi, je signe tout de suite, quoi. Il n'y a pas photo.
Bien
présenter
sûr.
Un projet en assemblée, puisque c'est l'assemblée qui est souveraine pour le présenter. Là, c'est clair. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut aller vers plus de formation, plus de pédagogie pour les syndics eux-mêmes, de manière à être capable de présenter ce que vous venez de résumer.
Et ce que je dis également, parce que c'est toujours très important, moi je crois beaucoup à la décentralisation, je dis aussi que les communes se réapproprient cette faculté-là, acceptent le principe d'une densification par la surélévation et inscrivent dans leur PLUI les immeubles sur lesquels elle est prête par principe à accorder ce droit et le quantifie déjà. C'est-à-dire qu'elle s'engage. C'est-à-dire que là, j'accorde un étage, là, j'accorde deux étages, là, j'accorde trois étages, ou j'accorde une hauteur. Et vous verrez que des promoteurs viendront parce qu'ils auront l'ingénierie pour le proposer.
Certainement. Le volet fiscal, vous en avez parlé. Est-ce que vous êtes favorable, Jean-Marc Thoreau? Alors vous, sur le volet fiscal, il y a deux choses que vous réclamez. Pérennité, transparence et stabilité dans le texte fiscal. Vous l'avez souvent dit. Est-ce que vous seriez dans l'idée, un peu comme le font l'armée ou la police, une forme de loi de programmation qui sanctuariserait une politique fiscale dans le logement?
Alors,
vous savez, sur une durée de 5 ans.
Une politique fiscale, elle obéit à un objectif. La grande erreur que font nos politiques, c'est qu'ils oublient que l'immobilier, c'est l'industrie du temps long.
Clairement.
Et donc, quand j'ai entendu choc d'offres, enfin pour moi c'était aux antipodes de ce qui allait se passer, un choc d'offres ça n'existe pas dans l'immobilier au regard de la durée qu'il faut de gestation pour générer cette offre. Et ce choc d'offres, si on doit l'avoir, finalement, eh bien c'est au terme vraisemblablement d'un mandat. Et donc, s'il y a un domaine où finalement le bilan politique peut se mesurer au-delà d'un mandat, et c'est peut-être le problème que l'on a en réalité politiquement, eh bien c'est bien l'immobilier. Quand on a une politique fiscale, on a un objectif. Cet objectif, pour moi, doit être le suivant. Il doit être de partir du principe que si on a une France de propriétaires, on aura forcément et de plus en plus demain une France de locataires. Et le statut de locataire, c'est pas forcément un statut économiquement mauvais, loin s'en faut. Vous payez pas de taxes foncières, vous n'avez pas d'enjeu de rénovation, votre loyer est semi-encadré, vos charges sont encadrées, vous partez avec un préavis d'un mois, vous partez où vous voulez. Donc cette offre-là, qui participe d'une mobilité économique profitable à l'économie entière, il faut faire le choix de la conforter fiscalement. Et il faut créer ce fameux secteur de loyer intermédiaire dont la France, dont on parle souvent et qui en réalité n'existe pas, par un statut du bailleur qui fait qu'il peut amortir son bien avec un curseur plus ou moins fort selon son engagement social, c'est-à-dire le fait qu'il ait un loyer maîtrisé et que l'on ait des systèmes simples. Ensuite, il faut accompagner la rénovation énergétique et c'est pour ça qu'on propose une mesure de doublement temporaire, de doublement du déficit foncier imputable sur le revenu pour créer, de ce point de vue-là, un choc de travaux. Et puis, le Denormandie dans l'ancien, lorsqu'il y a du désinvestissement. Et ce que l'on demande, c'est une loi de programmation qui pérennise ce dispositif-là à l'aune des objectifs que je viens de donner, plus un engagement pluriannuel d'aide à la rénovation énergétique. MaPrimeRénov', quel avenir ? Quel avenir ? Les certificats d'économie d'énergie, on est reparti pour 5 ans, mais il faut bien les sanctuariser. Et moi, je crois que l'aide de l'État, par rapport à un objectif qui pèse quand même 88 milliards à peu près de rénovation, bah, il doit être orienté là. En plus, accordez-moi qu'on crée une filière d'excellence aussi vis-à-vis de nos amis de l'industrie du bâtiment. Et on crée également une filière d'excellence vis-à-vis de nos
industriels. On parle même de chantier du siècle.
De nos industriels. Parce que je crois aussi qu'on manque d'innovation. Enfin, on manque. L'innovation doit être au cœur de la rénovation. Si demain on rénove un haussmannien, on le rénovera peut-être pas tout à fait avec le même produit extérieur qu'un immeuble des années 60. Les fenêtres, est-ce que demain elles produiront de l'énergie ou pas? Et cette industrie-là, elle peut être très conservatrice aussi dans la mise en œuvre, alors qu'elle peut être très innovante dans la proposition. Donc, moi je trouve que ça, en plus, ça se délocalise pas, ça, entre nous. Hein.
Alors, non seulement ça se délocalise pas, mais vous parliez par exemple du patrimoine bâti ancien, classé ou en tout cas apprécié comme de la pierre de Paris ou de la pierre de la pierre de taille, ce qui caractérise un peu le haussmannien, hein, bien évidemment. Je rappelle simplement, juste pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, que Haussmann, c'est quand même 30 000 immeubles abattus, reconstruits, reconfigurés, avec un traçage des grandes avenues en 17 ans. 17 ans. Alors, faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de concertation. Hein. À l'époque, c'était on expropriait, etc. Comblement de la Bièvre, tracé des grandes artères. Juste pour qu'on comprenne bien, cette loi de programmation, pour vous, on est d'accord, c'est la réponse à ma question, c'est une sanctuarisation d'une transparence, d'une stabilité fiscale, par rapport à ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, justement, c'est ce fameux ton long dont a besoin l'industrie, c'est bien ça?
Absolument, il faut une lisibilité. Pour une raison simple aussi, c'est que quand on raisonne à court terme sur des avantages fiscaux ou des aides, on crée un pic inflationniste sur les travaux. Si on est sur un temps long, on permet aux copropriétaires et aux Français de s'organiser sur ce temps long. Je vais prendre un exemple.
Et de l'amortir, oui.
Les plans pluriannuels de travaux. Les plans pluriannuels de travaux...
Bonne idée, sur le papier.
On l'a toujours soutenu.
Ouais, toujours soutenu.
Les plans pluriannuels de travaux, on va les mettre en place entre 2003 et 2005. Ils vont avoir une durée maximum de 10 ans. On va donc engager la copropriété à planifier sa rénovation énergétique et donc on va avoir comme ça la capacité à pouvoir l'étaler dans le temps. Mais si entre-temps on a des interdictions de louer, comment on va articuler la volonté du temps long de la copropriété qui répond à ses besoins et qui contre un effet inflationniste avec une date butoir? C'est pour ça que dans nos propositions, nous souhaitons que le moratoire sur l'interdiction de louer soit de la même temporalité que le plan pluriannuel de travaux. Vous êtes dans votre copropriété, vous avez décidé de rénover énergétiquement votre copropriété d'ici 2028. Eh bien, si vous êtes G et que votre interdiction était en 2025, elle est reportée en 2028. C'est ça l'intelligence de la préservation de la liberté des Français d'organiser leur sortie de la rénovation énergétique avec le respect d'une réglementation et faire en sorte qu'on ait le temps d'avoir les entreprises compétitives aussi pour le faire.
C'est une excellente démarche et je pense qu'elle sera beaucoup plus suivie par l'industrie. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez interpeller de façon, on va dire, offensive, ce qui vous caractérise aussi, sur ces types de questions. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marc Torollion, que ce que vous espérez aussi à travers les propositions, encore une fois, je répète, offensives sur la politique de logement, c'est qu'au cœur du débat public qui s'annonce, on va dire de façon assez singulière, en vue des présidentielles, qu'on parle enfin du logement au cœur de la préoccupation.
Ah mais oui, parce que, regardez, quand on m'explique que dans le Pays Basque, on peut pas se loger, qu'en Bretagne, on peut pas se loger, il y a des propositions à faire de partout.
Bien sûr.
Moi, j'ai deux propositions à faire pour l'accession, importantes. Faciliter la transmission des prêts à l'acquéreur. Pourquoi ? Nous venons de vivre une période...
Transmission des prêts, expliquez-nous.
Eh ben, je vous explique. On vient de vivre une période exceptionnelle de taux extrêmement bas.
Ah oui.
La durée moyenne d'endettement des Français qui ont acquis leur logement, c'est 21 ans. La durée moyenne de détention d'un logement qu'on a acquis, c'est 7 ans. Comment faire en sorte que cette période exceptionnelle de taux d'intérêt bas puisse se prolonger dans le temps? Eh bien, c'est que l'acquéreur qui se porte acheteur d'un bien puisse se voir transmettre le prêt non fini à un taux exceptionnellement bas, le plus facilement possible.
J'ai emprunté 21 ans à 0,1%.
1%. Au bout de 7 ans, je revends.
Je revends au bout de 10 ans. Je garde le même taux.
Mon acquéreur,
si je reprends quelque chose.
Mon acquéreur reprend votre prêt. Et
celui
il...
à qui... Ah oui.
Voilà.
Ah
et,
oui.
Voilà. Et en général, compte tenu que...
C'est possible, ça.
Eh ben, mettons-le en place. Enfin, impossible. Tout est possible, là. C'est pas très compliqué, en
plus. C'est une super idée.
Mettons-le en place. La deuxième proposition que je fais, parce qu'on nous dit, les résidences secondaires, ça chasse les autochtones de leur pays, ils sont obligés...
Ce qui est vrai,
voilà,
dans
c'est
une certaine
vrai.
Mesure.
Je propose donc, c'est un exemple, hein, mais que quand on revend une résidence secondaire, si l'acquéreur prend un engagement de résidence principale pendant 6 ans, le vendeur est exonéré de plus-value. Voilà, c'est simple. Et ça permet effectivement, pour un vendeur, de dire, ben moi, je veux vendre à un acquéreur en résidence principale pour bénéficier de cet avantage. Et on remet dans le circuit de la résidence principale au lieu de revendre en résidence secondaire.
6 années, un domicile fiscal, domicile principal, 6 années consécutives.
6 années consécutives.
Ah oui.
Oui, voilà.
Ah oui.
Donc, voilà. Et puis, je pense qu'il y a les maires qui se plaignent maintenant qu'il n'y a plus de possibilité pour les autochtones de se loger. On peut être aussi bien favoriser Airbnb pendant un certain temps. Il y a peut-être à revoir de ce côté-là aussi. Voilà. Non, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Hein, et d'où le fait d'ailleurs que d'un point de vue fiscal, il faut traiter ceux qui maintiennent leur logement à usage de résidence principale peut-être de bien meilleure façon.
Ceci augure bien. Merci encore une fois Jean-Marc Torlion, du débat public qui va s'annoncer. Je pense que ça va être sportif. C'est donc extrêmement intéressant et d'ailleurs c'est au cœur de vos préoccupations, que vous soyez d'ailleurs professionnel de l'immobilier ou tout simplement consommateur. Et finalement on peut être les deux parce que je pense qu'on est tous concernés par cette question. Merci Jean-Marc Torlion.
Merci à vous.
Et on va vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
Merci.
Alors, vous avez certainement prévu de faire du sport. Je sais que vous êtes non seulement voileux mais en plus vous adorez faire du ski et vous avez une chance inouïe, c'est d'habiter dans un endroit où avec moins d'une heure de voiture, vous êtes déjà sur les pistes. Hein.
Voilà, et effectivement, je serai sur les pistes pour cette fin d'année, mais je souhaite une belle fin d'année à tous nos auditeurs.
Voilà, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, et surtout, voilà. Portez-vous bien, et faites attention, parce que le Covid, on n'en est pas totalement sorti. Soyez attentifs, faites attention à vous, on vous souhaite de très belles fins d'année. Trêve des confiseurs, profitez-en, reposez-vous. Il s'agira bien de nous retrouver à la rentrée. Merci Jean-Marc.
Merci. Tourneau.
Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Torolion.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.